Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de Culture Générale Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School. Je me trouve aujourd'hui avec Camille Dumollier. Camille Dumollier, bonjour. Vous êtes donc professeur émérite de littérature comparée à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste des rapports entre la littérature, la philosophie et la psychanalyse. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage à destination des étudiants de prépa commerciale, donc sur le thème du désir. Pour ce second podcast avec vous, Camille Dumollier, nous allons donc voir le but et la fonction du désir en partant de la pensée des Grecs jusqu'à la question de la psychanalyse.
Sur ce point du désir vital dans son ensemble, je voudrais revenir à la question du but et de la fonction du désir. Puisque là, j'ai essayé d'en parler de sa nature, manque ou expression de puissance. Et c'est là qu'on va de nouveau se retrouver devant un paradoxe, et un paradoxe dont nous avons hérité depuis les Grecs. Parce que, quelles que soient les théories des Grecs, Platon, Aristote, les Stoïciens, les Épicuriens, qu'est-ce que, au bout du compte, que cherche le désir ? Ben, il cherche le bonheur. Ça peut vous paraître évident, mais ce n'est pas si évident, parce qu'à l'époque chrétienne, nous qui sommes héritiers du christianisme, ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes dans le monde du péché, donc le bonheur, nous ne l'aurons jamais ici. Nous l'aurons peut-être au paradis, si on a été bon. On ne peut pas chercher le bonheur. Nous cherchons quoi ? La contrition, la punition pour... Mais pour les Grecs, non. Les Grecs étaient des gens qui ne connaissaient pas le péché originel. Et donc, on cherche le bonheur. Et le bonheur, ben, grosso modo, il est lié au plaisir. Bon. Ben, je dis grosso modo parce que c'est quand même très compliqué. Vous allez voir pourquoi c'est compliqué. Parce que, comme le dit Platon dans le Philebe, il n'y a rien de plus trompeur que le plaisir. Alors c'est ça le paradoxe. Et celui qui explique le mieux pourquoi, c'est Aristote. Aristote, qui est le plus grand défenseur du désir et du plaisir par rapport à Platon et à d'autres, va lui-même être confronté à ce paradoxe que je vais dire. Et que nous allons retrouver identique chez Freud. Et pour expliquer Aristote, je prendrai les termes de Freud, qui fait une opposition, d'abord, parce que la théorie de Freud ne cesse d'évoluer, entre principe de plaisir et principe de réalité. Alors, normalement, il les oppose. En réalité, ils ne sont pas opposés. Parce que qu'est-ce que c'est le principe de plaisir ? C'est le désir inconscient de réaliser nos désirs le plus rapidement possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on rêve, et que dans les rêves, on va réaliser tout de suite des désirs. Et qu'est-ce que c'est le principe de réalité ? Ben, c'est que le moi se rend compte qu'il n'est pas tout seul, et que pour réaliser ses désirs, il faut prendre en compte la réalité. Ce qui signifie qu'il n'y a pas opposition entre principe de plaisir et principe de réalité. Le principe de réalité est une continuation du principe de plaisir pour nous aider, dans le monde réel, à satisfaire le désir premier. Donc, principe de plaisir, principe de réalité, c'est la même chose. Et le but de tout cela, c'est de parvenir à un plaisir utile. Le terme qu'on trouve chez Freud, qu'on trouve chez les Épicuriens et chez les Grecs. Mais voilà le problème. Il est là, je cite Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, « Quand la nature est comblée, nous tirons le plaisir même de ce qui est opposé. En effet, on se complaît à ce qui est âcre et amer. Alors que rien de cette sorte n'est agréable, ni naturellement, ni absolument. Si bien que ces impressions ne constituent même pas de véritables plaisirs. » Évidemment, de quoi parle-t-il ? Ce sont les plaisirs du corps. Voilà ce qui se rend compte. Dans ce sens, déjà rendu compte les Grecs, mais ils se heurtent à un problème, parce que, puisque le plaisir, c'est ontologiquement le but de l'être humain comme Dieu, comment ça se fait que lorsque on est dans le plaisir, ça ne nous suffit pas ? On veut plus, on veut aller au-delà du plaisir. Ça nous ennuie, le plaisir, et on va rechercher des choses qui nous font souffrir, et on va jouir de la souffrance au-delà du plaisir. Alors pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, alors je continue à lire Aristote, les plaisirs qui ne comportent pas de douleur ne peuvent comporter d'excès. Pourquoi alors? C'est ça. Pourquoi recherche-t-on ces plaisirs du corps qui nous donnent de la douleur et de l'excès? Dans la mesure où, comme pour chez Freud, le plaisir, qu'est-ce que c'est? Principe de plaisir, principe de réalité, ça nous donne la mesure de notre vie, des limites à ne pas dépasser. Et la douleur, elle est là pour nous signaler, attention, vous débordez du plaisir, vous entrez dans la zone de douleur, et donc vous quittez ce pourquoi, au fond, votre désir est fait, vous limitez dans le bonheur du plaisir. Eh ben, mais pourquoi diable? Enfin, le diable, j'anticipe par rapport, c'est pas au monde chrétien, mais pourquoi diable cherchons-nous à aller au-delà? Et Aristote dit, c'est parce que souvent nous utilisons les plaisirs comme des remèdes qui sont susceptibles de combler un manque. Et ben, quand on a trop soif ou je ne sais quoi, moi. Et puis qu'au lieu de boire de l'eau, on va boire du vin, vous voyez. Et puis alors qu'après, on va continuer à vouloir boire du vin, même si on n'a plus soif, parce qu'on va trouver un plaisir qui nous conduit à des débordements. Et il dit, voilà, il y a un caractère violent de ces remèdes, mais que nous allons rechercher. Au lieu de nous contenter du plaisir naturel et normal, on va se mettre à rechercher ces plaisirs un peu excessifs qui sont comme des remèdes du corps que nous avons goûté une fois et que nous voulons répéter. Ce que va dire Freud, exactement pareil. Et alors, le résultat, c'est que à force, eh bien, ces gens-là qui utilisent ces plaisirs comme remèdes se donnent, je cite encore Aristote, en quelque sorte une soif inextinguible. C'est-à-dire que les faux plaisirs, parce que lorsqu'ils vont faire les Grecs, c'est différencier les vrais et les faux plaisirs, vous imaginez que tous les faux plaisirs, c'est les plaisirs du corps, c'est-à-dire les seuls vrais plaisirs entre nous, hein, bon. Et les vrais plaisirs, c'est les plaisirs de l'esprit. Hein. Bon. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, de nos jours comme dans l'Antiquité, trouvait que c'était les véritables plaisirs, parce que ces plaisirs de l'esprit n'ont pas d'excès. Tandis que tous les plaisirs de corps vous font tomber dans l'excès. Voilà le paradoxe, voilà ce qui est incompréhensible, voilà le scandale pour les Grecs du désir et de sa relation au plaisir. Pour conclure, il faut dire que si, pour les Grecs, si le désir n'est pas guidé par la raison, ce que Aristote appelle la boulesis, le désir rationnel, eh bien, on se rend compte que de quoi? Eh bien, que le désir ne vise pas ni le bonheur, ni le plaisir, mais quelque chose qui va au-delà et que, en reprenant cette idée du remède, qui relève de l'addiction. C'est ça, de la drogue. Parce qu'un remède, c'est une drogue. Et nous utilisons, nous, êtres humains, le plaisir comme une drogue. Et que nous cherchons, en accumulant du plaisir, quelque chose qui est au-delà du plaisir, qui s'appelle la jouissance. Voilà le problème que les Grecs, auxquels ils vont être confrontés, même si, comme je l'ai dit, le terme hédonée concernant Dieu peut se traduire aussi par jouissance, et voilà qui montre bien le paradoxe fondamental du but du désir. Est-ce le plaisir? Est-ce le bonheur? Est-ce la jouissance?